saluer ses disciples après sa résurrection. Il est pour nous ressuscité et sa paix vient sur nous quand on reste proche de lui. Chers sœurs et frères, il y a une sentence du Christ qui est absolument essentielle pour être son disciple. On se pose la question parfois, qu'est-ce qu'il a voulu dire par ça? J'aimerais que vous reportiez, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, au chapitre 10 de l'Évangile de Matthieu. Chapitre 10 de l'Évangile de Matthieu, il dit au verset 38. Chapitre 10 de Matthieu, verset 38, le Christ a prononcé cette sentence essentielle pour être son disciple, pour le suivre. Matthieu 10, 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre sa croix? J'ai posé la question à plusieurs personnes, même des membres de l'Église, quelle est leur opinion quand il s'agit de la croix? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ça? Bon, j'ai entendu des réponses plus ou moins semblables, mais toujours. Et par exemple, les gens qui disent la croix, eh bien, c'est j'ai un fils qui est alcoolique, qui est addict, qui est drogué. Et c'est la croix que je dois porter tous les jours. Ou bien, il y en a qui disent, ma croix, c'est ma belle-mère. J'ai des difficultés avec ma belle-mère, c'est la croix que je dois porter. Ou bien, ma croix, c'est l'arthrite qui me fait très mal. J'ai du mal à marcher, enfin, je boite, et c'est la croix que je dois porter, jour après jour. Donc la question que nous nous posons, est-ce que le Christ a voulu dire l'une de ces choses? Et bien sûr, il n'est pas l'auteur de la confusion, mais il paraît qu'il y en a pas mal d'idées sur la signification de cette phrase. Et nous allons voir qu'il l'a répété à maintes reprises, c'est-à-dire qu'elle est très importante. Nous pouvons nous rapporter, s'il vous plaît, rapportez-vous au chapitre 16 de Matthieu, et nous allons voir qu'il répète, il enrichit chaque fois cette sentence, cette maxime pour ses disciples. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, chers et vrais frères, au chapitre 16, verset 24 de l'Évangile de Matthieu. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, excusez-moi frère, qu'il renonce à lui-même. » Voilà qu'il ajoute quelque chose ici maintenant, que nous n'avons pas vu dans la citation de Matthieu 10. Il dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Donc il clarifie déjà la signification, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc il est en train de parler de quelque chose de très précis. Et la Bible nous donne toujours l'interprétation, la même parole de Dieu écrite pour nous. Et la solution pour ne pas avoir la confusion, savoir exactement de quoi parle-t-il notre maître. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Nous allons voir ce que ça veut dire, d'après la Bible, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc si nous ne savons pas exactement qu'est-ce que la croix, comment pouvons-nous être ses disciples? Donc c'est très important de comprendre la signification de cette sentence du Christ pour ses disciples. Par exemple, nous allons voir comment, au chapitre 8 de l'Évangile de Marc, chapitre 8, verset 34, nous allons de nouveau voir que c'est bien consigné dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire c'est très important de savoir. Chapitre 8, verset 34 de l'évangile de Marc. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc, le Christ est le seul chemin pour arriver au Père, c'est-à-dire pour un rapport profond avec notre Dieu et pour être qualifié en le suivant d'entrer dans le royaume des dieux. Donc, voyons de plus en plus l'importance, nous allons encore voir deux citations qui se trouvent dans l'évangile de Luc. Et nous allons voir qu'il y a encore un élément qu'il ajoute ici au chapitre 9, s'il vous plaît, de l'évangile de Luc. Prenez note, chers sœurs et frères, c'est très important, c'est essentiel pour le salut. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, donc nous sommes ses disciples, nous le suivons. Donc, chapitre 9 de l'évangile de Luc, verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge d'eux, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Voilà, il ajoute encore un élément. Chaque jour. De quoi parle-t-il? Nous allons le voir, chers frères. Peut-être que vous le savez bien, mais il faut revoir ces enseignements, cette doctrine essentielle pour le salut, pour être le disciple du Christ. Il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, c'est quelque chose qu'on doit faire chaque jour. Et nous allons voir la dernière fois, la quatrième citation, pour voir combien cet élément est important pour nous, chers sœurs et frères, au chapitre 14 de l'évangile de Luc. Chapitre 14, verset 27. 14, 27 de l'évangile de Luc. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Alors, qu'est-ce que la croix? Nous allons donc voir comment Dieu nous explique lui-même pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il y a des différentes opinions, comme je vous l'ai dit, différentes opinions que les gens ont, même dans l'Église, au sujet de la signification de cette parole, de ces mots, la croix. Donc il est essentiel de comprendre ce que cela veut dire, et nous allons voir la signification, chers sœurs et frères, dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Nous allons voir comment l'apôtre Paul nous explique, et Dieu lui-même a inspiré les écrits, bien sûr, de l'apôtre Paul. Nous pouvons commencer à lire donc au chapitre 6 pour avoir une perspective de l'Épître aux Romains. Chapitre 6, nous pouvons commencer à lire à partir du premier verset. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Remarquez qu'il commence à parler de la mort ici, chers sœurs et frères, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la grâce du Père, de même, nous aussi, nous marchions à nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, voilà qui répète encore cette phrase, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, voici le verset 6, chapitre 6 des Romains, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Voilà l'explication de la Bible, chers sœurs et frères. sachant que notre vieil homme, Romains 6, verset 6, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc, il parle d'une crucifixion, il parle de la mort, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons pas esclaves du péché. Voilà, pour que nous ne soyons pas esclaves du péché. Donc, il parle de la mort. La croix, mes chers soeurs et frères, pour ceux qui ont écouté les paroles du Christ, il a adressé ces paroles plusieurs fois à ses disciples et même à la foule, comme nous l'avons vu dans les quatre occasions où cette citation apparaît dans les évangiles. Il parle de la croix pour ces gens-là, chers soeurs et frères, à l'époque romaine. La croix n'était pas un joli, une espèce de bijou que l'on porte, qu'on se pend au cou, comme il y en a qui le font, et qu'ils chérissent beaucoup, et ils le portent là, c'est quelque chose de pieux ou de romantique. Pas du tout, chers soeurs et frères. La croix était un instrument de mort, la mort la plus terrible, peut-être jamais imaginée par les hommes. La sentence des morts par crucifixion était l'une des pires, et c'est les Romains qui l'ont adoptée, donc pour punir les criminels et pour les condamner à mort. Donc la croix est un instrument des morts. Le Christ n'est pas en train de parler d'autre chose, mais qu'il faut mettre à mort quelque chose. Et l'apôtre Paul nous décrit ici en parlant de la mort 4 fois. Il mentionne ce mot-là dans le chapitre 6, verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Alors voilà. Donc, il y a quelque chose en nous qui doit être crucifié, qui doit être mis à mort. Et le Christ dit que c'est chaque jour que nous devons donc pratiquer cette discipline pour être ses disciples. Voilà, chers soeurs et frères. Nous allons voir la lutte que l'apôtre Paul a décrite quand il se battait par sa propre force contre le péché, contre cette tendance qui est dans nos membres. Il est en train de décrire qu'il y a quelque chose en nous, dans notre corps, dans nos entrailles, qui veut nous mener vers le péché. Et nous allons voir que c'est exactement de cette lutte dont le Christ parle quand il dit qu'il faut prendre la croix chaque jour. Il faut mettre à mort les tendances du vieil homme qui sont en nous. Il faut les crucifier. Donc, voyons par exemple dans le chapitre suivant des Romains, comment l'apôtre Paul décrit cette lutte. Mais nous allons voir, chez ce frère, qu'il décrit une lutte à lui seul. Il ne mentionne pas le Christ que un peu après, au début du chapitre 8 des Romains. C'est essentiel de savoir que ces divisions, parfois, peuvent créer la confusion parce que les gens croient que le sujet dont on parle finit juste à la fin du chapitre 7, mais il donne la solution à ce qu'il nous pose comme problème, à ce qu'il oppose comme le problème de sa lutte intérieure. La réponse se trouve au début du chapitre 8. Il ne faut pas s'arrêter à la fin du chapitre 7. Donc, lisons par exemple au chapitre 14, chapitre 7, verset 14 de l'Épître aux Romains. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Donc il est en train de décrire, il y a quelque chose en nous, il y a une espèce de lutte continuelle qui commence quand on devient le disciple du Christ. C'est de ça qu'il parlait quand il disait qu'il fallait mettre à mort le vieil homme, il fallait crucifier le vieil homme. Verset 15, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Donc l'apôtre Paul, ici, il reconnaît qu'il y a une lutte intérieure chez nous. Mais il essaye de décrire ça maintenant, comment cette lutte est quand nous essayons de la faire par nous-mêmes. Sans l'aide du Christ, nous ne pouvons pas. Il faut avoir les yeux fixés sur le Christ quand on prend cette croix et on fait mourir le péché en nous, le vieil homme. C'est de ça qu'il s'agit, chers soeurs et frères. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc nous avons, à notre nature, en notre corps, à nos membres, une tendance qu'il faut faire mourir. Voilà ce que le Christ a voulu dire. Et l'apôtre Paul nous aide à le comprendre ici avec ses écrits. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Nous allons voir donc que c'est parler du Saint-Esprit et de la loi de Dieu qui est écrite dans nos cœurs, dans nos esprits, que nous avons, nous recevons le pouvoir pour faire mourir ces tendances quotidiennes dans nos corps. Verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Voilà, il est toujours en train de parler à la première personne, la lutte d'un homme tout seul. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 21, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Voilà notre lutte. Et c'est de ça que le Christ parle. Car je prends plaisir à la loi des dieux selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc il ne parle pas encore qu'il faut la faire mourir, il parle à lui seul. Et nous avons déjà maintenant la prémisse que le Christ nous a annoncée, il faut prendre la croix chaque jour et le suivre, donc être en contact avec lui. Après il dit, misérable que je suis, verset 24, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu, car ici donc il entre dans la scène Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi des dieux, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mais on continue tout de suite là, c'est pas la fin de cette thèse que l'apôtre Paul nous présente, la solution se trouve tout de suite après. Verset chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ici où il entre sa sentence. Il faut renoncer à soi-même, il faut prendre sa croix, c'est-à-dire faire mourir le mal qui est en nous. Parce que sa force est en nous. Il nous donne le pouvoir de le faire, chers frères, mais il faut garder cette flamme allumée par la prière et le jeûne et la méditation. Et pour nourrir, en nourrissant notre esprit de sa présence ineffable. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2 du chapitre 8. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, de cette tendance à aller contre la loi de Dieu qui est dans nos entrailles, qui est dans notre chair, qui est dans notre corps. Nous avons donc une lutte quotidienne. Et c'est comme ça que l'on sait si on est un disciple du Christ ou non, si on développe cette capacité de faire mourir, de crucifier chaque jour ces tendances qui sont en nous. Et cette lutte va continuer jusqu'au bout de notre vie physique, chers sœurs et frères. Ou bien que nous soyons encore vivants au son de la septième trompette et nous serons transformés dans un clin d'œil. Ça sera la fin de cette lutte, mais il faudra être fidèle jusqu'à la fin. C'est pourquoi Dieu le permet et il dit, celui qui persévère jusqu'à la fin, il sera sauvé. Parce que jusqu'à la fin, nous aurons cette lutte. Tant que nous sommes dans ce corps matériel, il y aura une lutte quotidienne contre le péché. Chers frères, elle ne cesse pas jusqu'à la fin de notre vie physique. C'est pourquoi ceux qui sont vainqueurs seront les seuls à entrer dans les royaumes des dieux. Ceux qui ont vaincu jour après jour et ont développé le caractère des dieux, les habitudes du Christ pour vaincre jour après jour. Donc notre lutte continue jusqu'à la fin de notre existence. On peut peut pas dire, oh, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'église, ça, je le connais bien, je le sais bien. Faites attention, chers frères, cette lutte va continuer tant que nous avons un corps matériel. Ce n'est que au moment de la résurrection, dans un clin d'œil, nous serons transformés, ou bien nous serons ressuscités et nous aurons un corps spirituel semblable à celui du Père qui nous a engendrés. Et alors, cette lutte sera finie pour l'éternité, mais nous aurons démontré à Dieu que nous avons été fidèles à ce qui est petit. Et peu à peu, nous avons démontré jour après jour, dans la persévérance, dans la lutte quotidienne contre cette tendance à la crucifiant les vieils hommes qui veut vivre d'après cette tendance et en laissant que ce soit le Christ qui se manifeste en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je crucifie avec le Christ. Il a donc atteint un niveau de discipline tel qui est un exemple pour nous, et c'est comme ça que nous savons que le Christ vit en nous quand nous triomphons jour après jour dans cette lutte contre les tendances qu'ils veulent nous mener au péché, chers frères. Verset 3. Et disons, par exemple, maintenant, nous allons voir au chapitre 8 et verset 13, un verset clé, là, pour comprendre encore, pour clarifier encore ce concept, chers frères. Chapitre 8, verset 13 de l'Épître aux Romains. Chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est-à-dire, si on laisse que ces lois, cette tendance qui veut nous mener captive au péché, c'est elle qui prédomine dans notre vie quotidienne, donc nous allons mourir éternellement. Notre destinée sera l'étang de feu et nous serons éteints pour toujours, chers frères. Si vous vivez selon la chair, donc il faut renoncer à soi-même, à cette tendance jour après jour. Vous mourrez. Mais si par l'esprit, voilà, si par l'esprit vous faites mourir, voilà, crucifier, faites mourir, la croix, prendre la croix, c'est une façon très éloquente d'illustrer le fait qu'il s'agit d'un concept de faire mourir, d'être radical, pas la tiédeur, un petit peu ici, un petit peu là, comme l'époque où nous vivons. Nous sommes inondés de distractions, nous sommes inondés du divertissement où les gens s'amusent ou s'entretiennent en voyant transgresser la loi des dieux. Quand je suis dans mes voyages, parfois je me promène dans l'avion et puis je vois un petit peu. Rien un petit peu. Qu'est-ce que les gens regardent? C'est surtout de la violence, qui c'est une transgression de la loi des dieux. Ils passent des heures à regarder de scènes de violence. Ils s'entretiennent avec de la pornographie ou des films qui ont toujours des scènes pornographiques. Donc, c'est la transgression de la loi des dieux. Il ne faut pas convoiter. Donc, et ils se nourrissent, ils sont distraits avec de la sorcellerie. Donc c'est tout des transgressions de la loi des dieux. Chers frères, c'est un chemin étroit que nous avons à suivre et pas à suivre la tendance du monde. Mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir, ça veut dire vous crucifiez. C'est ce que le Christ a voulu dire. Il y a une lutte quotidienne que nous devons avoir et que nous ne pourrons pas vaincre sans lui, sans sa présence en nous par l'Esprit des dieux. Il faut garder bien allumé en nous. Il est la lumière du monde. Il faut garder sa parole vive en nous par l'étude quotidienne, mais il faut aussi sa présence en nous par la prière. Faites mourir les actions du corps. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Voilà les vainqueurs. Ce sont ceux qui font mourir les actions du corps. Le Christ a aussi prononcé une sentence très forte. Je vous prie de vous reporter au chapitre 11 de l'Évangile de Matthieu. Chapitre 11 de l'Évangile de Matthieu. Il dit, pur. Au chapitre 11 de Matthieu, verset 12. Portez-vous là-bas, chers soeurs et frères, s'il vous plaît. Chapitre 11, verset 12 de l'évangile de Matthieu. 11, verset 12. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent, une lutte à mort chaque jour pour suivre le Christ, pour être vainqueur, pour persévérer jusqu'à la fin, pour entrer dans le royaume des dieux, dans un monde qui veut nous distraire à tout prix, qui veut nous distraire de ce chemin étroit que nous devons suivre jour après jour, le seul chemin qui produit le bonheur, le seul chemin qui produit la paix d'esprit, c'est étroit, mais les résultats sont merveilleux. Donc, il dit clairement ici, au chapitre 11, verset 12 de Matthieu, ce sont les violents qui s'en emparent du royaume des dieux. Pourquoi on est en train de décrire une lutte à mort que nous devons mener chaque jour contre le péché? Il doit être radical, il ne faut pas l'attirer. C'est pourquoi le Christ aussi, il dit qu'il faut mettre à mort. Quand on met à mort ces tendances, quand on a cette décision profonde de ne pas faire le coquet avec le péché, de ne pas faire la coquette avec le péché, mais d'être radical, donc on n'est pas tiède. La tiédeur cause la nausée à Jésus-Christ. Vous le lisez clairement, et l'église de Laodicée, il dit au chapitre 3 de l'Apocalypse, verset 15, c'est l'époque où nous vivons maintenant, et même si nous sommes encore dans une ère qui ne se caractérise pas par ça, nous sommes toujours, disons, on a toujours la tentation qui nous entoure, le milieu où nous vivons, l'environnement. Verset 15 du chapitre 3 de l'Apocalypse, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomiterai de ma bouche. » Donc, on peut être dans l'Église et savoir qu'il ne faut pas suivre les tendances de la chair, mais encore donner, si vous voulez, de l'espace dans nos esprits encore à cette pensée qui suscite l'environnement, le milieu où nous sommes jour après jour dans ce monde par l'intermédiaire de l'Internet, de la télévision, des films, de toutes sortes de divertissements, de la publicité qui veut nous arracher et qui veut nous mener par le chemin de laisser les tendances de la chair et diriger nos pensées et nos paroles. Donc, répétons au chapitre 8 de Romains, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Donc, il ne faut pas être Dieu et la tiédeur, ça lui cause la nausée. Donc, il faut que cela soit une décision comme des violents qui s'emparent du royaume des dieux, parce que dans nos esprits, il faut simplement faire mourir par le pouvoir de l'esprit. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps ou les tendances de la chair, disons, vous vivrez. C'est la seule façon, et nous avons lu dans le chapitre 9 de Luc que c'est une lutte de tous les jours et que ça doit continuer jusqu'à la fin de notre vie physique, soit que nous mourions ou soit que nous soyons ressuscités par la septième, nous soyons transformés par la septième trompette. Nous allons voir encore d'autres écritures qui nous font voir de façon encore plus claire le concept dont le Christ nous a parlé. Ici, au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, il y a encore une référence ici au vieil homme. Chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens et verset 22. 4, 22 de l'Épître aux Éphésiens, « Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Donc, Lisons le verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, nous allons vu dans Romains chapitre 6, qu'il faut le crucifier, faire mourir ce vieil homme qui suivait les tendances de la chair, les désirs des yeux et la vanité de la vie ou l'orgueil de la vie. C'est le moteur qui fait marcher le monde où nous vivons, chers sœurs et frères. Donc, voilà encore une autre amonestation de la parole de Dieu, comment le vieil homme qui s'est corrompu par les convoitises et trompeuses. Donc, il faut le faire mourir, il faut le crucifier. Voyons encore une autre exhortation de l'apôtre Paul au chapitre 3 de l'épître aux Colossiens. Ici, je veux lire de la version Osterwald, parce que le texte en français n'est pas clair. Nous allons voir donc au chapitre 3 de Colossiens. Je vais lire d'abord la version chez Louis Segond, et nous allons voir comment elle est beaucoup plus claire chez Osterwald. Donc, chapitre 3 de Colossiens, nous pouvons commencer au verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite des dieux. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, si nous attachons aux valeurs célestes que Dieu nous révèle par l'Esprit de Dieu. Donc, si vous lisez le verset 5 ici, chez Louis Segond, peut-être que vous avez, la plupart d'entre vous, vous avez cette version-là pour suivre le sermon. Vous allez voir qu'elle n'est pas claire. Verset 5 de Colossiens, chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ce n'est pas les membres qu'il faut faire mourir. Nous avons vu dans le chapitre 7 des Romains que ce sont les tendances qu'il y a dans nos membres qu'il faut faire mourir, qu'il faut crucifier pour être disciple du Christ. Je veux vous lire ce qui est écrit dans la version telle qu'elle est faite chez Osterwald au chapitre 3, verset 5. Nous allons voir, c'est beaucoup plus clair. Chapitre 3, verset 5, chez Osterwald, il dit « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, tient à la terre. » Voilà, ce n'est pas les membres, ce qui dans nos membres, tient à la terre. C'est-à-dire ce qui ne vient pas d'en haut, de l'Esprit des dieux. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, tient à la terre. La fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice qui est une idolâtrie. Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion, dans lesquels vous aussi, vous avez marché autrefois lorsque vous viviez en elle. Mais maintenant, vous aussi, renoncez à toutes, à la colère. Voilà ce qu'il faut faire mourir, pour parler concrètement. Il faut renoncer à la colère. Il ne faut pas que la rage ou la colère n'emporte sur la maîtrise de soi. C'est ce qu'il faut. La maîtrise de soi, c'est l'application de cette doctrine de faire mourir toutes les tendances qui sont contraires à la loi de Dieu et qui font mal à notre prochain. Mais maintenant, vous aussi, les Colossiens 3, verset 8, renoncez à toutes, à la colère, à l'animosité, les inimitiés, à la méchanceté, à la médisance. Médisance, voilà la langue, chers sœurs et frères, aux paroles déshonnêtes qu'ils n'en sortent pas de votre bouche. Ne mentez point les uns aux autres, ayant dépouillé avec ses œuvres. Voilà, ici il dit dépouillé. Dans Romains, il dit crucifié. Donc il faut mourir, il faut faire mourir toutes ces tendances pour être un disciple du Christ chaque jour de notre vie. Ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Voilà. Voilà notre appel, voilà notre discipline jour après jour. C'est pourquoi il y a des paroles pleines de sagesse qu'on sait bien qu'elles sont bibliques, mais qu'on attribue à Mahatma Gandhi, et qu'il est bon de nous rappeler de ces paroles. Elles se trouvent dans la Bible. On sait bien que Mahatma Gandhi, il lisait la Bible. Il a même dit une fois, je ne sais pas s'il l'a dit à plusieurs reprises, si je rencontre un vrai chrétien, d'après ce que la Bible dit, qu'est-ce qu'un chrétien? Moi, je deviendrai aussi un chrétien. Donc il paraît qu'il n'en a pas trouvé des vrais chrétiens dans son existence. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il faut veiller sur ses pensées, parce que nos pensées deviennent nos paroles. Combien d'exhortations avons-nous dans la Bible et dans les livres des Proverbes, et même ce que nous lisons aujourd'hui? Veillez sur nos pensées. C'est là où la lutte commence. C'est là où il faut mettre à mort les pensées qui sont contraires à la loi des dieux. Il faut crucifier. Il ne faut pas s'entretenir avec elles. Il faut être radical. Il faut être violent pour l'emporter chaque jour, pour pouvoir être un vrai disciple du Christ et pas des personnes pleines de tièdeur spirituelle, parce que la méchanceté vraiment abonde, comme le Christ l'a aussi dit. Nous, nos pensées sont influencées chaque jour par le milieu où nous vivons. Nous pouvons lire dans Matthieu 24, si vous voulez vous rapporter là-bas pour un moment, Matthieu 24, ce que le Christ nous prévient au sujet de le milieu où nous vivons, chers sœurs et frères. Jamais dans l'existence humaine, on avait été envahi dans nos vies, dans nos pensées, comme aujourd'hui par l'influence du milieu et du monde, qui suit les tendances de la chair, les tendances de ce qui plaît aux yeux et les tendances de ce qui plaît à l'orgueil humain. C'est le moteur du monde. Au chapitre 24, verset 12 de Matthieu, nous allons voir la description de la lutte que nous avons en appliquant ces principes que nous essayons d'expliquer aujourd'hui, chers sœurs et frères. Chapitre 24, verset 12, et parce que c'est Matthieu 24, 12, et parce que l'iniquité, ça veut dire transgression de la loi des dieux. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, ça veut dire l'amour. Qu'est-ce qu'est l'amour? Donc, l'apôtre Jean le décrit clairement. Si vous le rapportez, s'il vous plaît, à la première épître des Jean, première épître de l'apôtre Jean, au chapitre 5 et verset 3. Donc, nous lisons que ce soit la Bible qui nous interprète, qui nous explique chacune de ces paroles du Christ. Chapitre 5, verset 3 de la première épître de l'apôtre Jean dit « Car l'amour des dieux consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Voilà la définition de l'amour d'après la Bible. Comme je vous le disais, on est inondé de l'influence du monde qui suit les tendances de la chair, les tendances des yeux, les tendances de la vanité humaine, jour après jour. Et nous devons donc crucifier de façon radicale, je dirais, surtout aux jeunes, ceux qui arrivent à marcher dans l'intégrité, en renonçant à eux-mêmes dans cette époque où l'influence est tellement énorme pour nous faire transgresser la loi des dieux, ceux qui développent cette discipline de crucifier chaque jour les pensées avant que ne deviennent des paroles. Nous allons voir la suite de ces paroles de Mahatma Gandhi qui sont très utiles pour nous. Ceux qui, qui font la lutte à mort chaque jour, d'une façon radicale, pas avec la tiédeur. Oh oui, un petit peu, je peux m'entretenir un petit peu avec ça, avec cette vidéo, avec ce film, avec ces photos qu'on publie dans les journaux, c'est très facile à trouver. Donc, il faut mettre à mort ça, chers frères, il faut être radical. C'est pourquoi le Christ parle de prendre cette croix chaque jour. Chapitre 24, verset 12 de Matthieu. Et parce que l'iniquité se sera accrue, bien sûr elle est accrue, il faut, je ne prendrai pas le temps de décrire toutes les abominations qui sont accessibles à la jeunesse et à n'importe qui sur l'internet, chercherait frère, qui sont contraires à la loi des dieux et qui mènent les gens et les jeunes même au suicide, qui se répète, qui arrive de plus en plus souvent à cause de ceux qui nourrissent leur esprit, à cause de leurs pensées qui sont suscitées par ce qu'ils voient sur l'internet, chercheurs et frères, ou sur tous les autres, sur les autres médias comme Facebook. Parce que l'iniquité, c'est ça la crue, l'iniquité, c'est la transgression de la loi des dieux, la charité qui est l'obéissance, qui est l'amour, l'amour et l'obéissance aux lois des dieux, du plus grand nombre se refroidira. Sur la plupart des gens, il est en train de parler des gens de l'Église, chers sœurs et frères, parce qu'il parle ici de l'amour. Et l'amour, nous savons quelle est la définition, c'est garder les commandements des dieux. Donc, le Christ, il dit que le plus grand nombre de ceux qui savent qu'est-ce que l'amour, de ceux qu'on suppose qu'ils doivent garder les commandements, leur amour du plus grand nombre se refroidira. Et ça produit la tiédeur, parce qu'on n'applique pas le principe dont on a parlé dès le début. Il faut crucifier les tendances qu'il y a en nous. Il faut les faire mourir. C'est pourquoi donc, je reviens à ces paroles qui ont été consignées d'après ceux qui s'y connaissent, par Mahatma Gandhi, qui lisait la Bible. Il dit, il faut veiller sur nos pensées. Et comment veillons-nous? Comment appliquons-nous ces principes? Non, pas simplement veiller. Il faut faire mourir dans nos pensées ce qui est contraire à la loi des dieux. Voilà, c'est une définition bien claire qui n'était pas là et que nous savons qu'il faut ajouter pour éclaircir ces concepts. Parce que nos pensées deviennent nos paroles. Et nous savons que même dans nos pensées, nous pouvons transgresser la loi des dieux, comme le Christ clairement l'a dit. Celui qui voit une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère en son cœur avec elle. Donc il faut appliquer ce principe de prendre la croix à ce qui arrive dans nos pensées. Il ne faut pas les laisser aller, il faut les couper. Il faut avoir cette discipline, cet état d'éveil spirituel pour ne pas laisser ces pensées s'emparer de nos pensées et puis de devenir nos paroles, parce que nous serons jugés par nos paroles, comme le Christ le dit clairement. Et puis il dit, il faut veiller sur nos paroles parce qu'elles deviennent nos actes. Ce que nous pensons, ce que nous disons, ça devient nos actes, les actions humaines. Donc, si nous ne cultivons pas cette coutume, cette habitude de faire mourir ce qui est contraire à la loi des dieux, nous finirons par le dire. Si nous ne les faisons pas mourir à la racine même qui est la pensée, et puis nous allons parler, et puis nous allons faire des choses qui sont contraires à la loi des dieux. Donc il dit, il faut veiller sur nos pensées, parce qu'elles deviennent nos paroles. Il faut veiller sur nos paroles, parce qu'elles deviennent nos actes. Voilà. C'est pourquoi, c'est comme ça que le péché est conçu, d'après la description que nous trouvons chez Jacques, l'apôtre Jacques, comment le procès pour concevoir le péché et puis pour produire la mort. Ça commence dans la pensée, comme avec Adam et Ève, devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après, les pensées sont devenues des paroles, et les paroles sont devenues des actes, chers frères. Et puis, il continue, il faut veiller sur nos actes, donc il faut se repentir. Tout de suite, revenir à la racine et implorer le pardon des dieux quand on se laisse entraîner par ces tendances. Il dit qu'il faut veiller sur nos actes parce que nos actes deviennent nos habitudes. Si on n'éveille pas sur ces choses-là, en sachant qu'il faut faire mourir tout ce qui est contraire à la loi des dieux, il faut les crucifier, qui est écrite dans nos pensées, qui est écrite dans notre esprit, qui est écrite dans notre cœur. Donc nous n'avons pas d'excuse si nous gardons la flamme vive de la présence du Christ en nous, par sa parole et par sa présence divine, parce que nous, nous ravivons le feu en nous, donc ce sera beaucoup plus facile, autrement nous n'aurons pas la force de faire mourir ces tendances-là et de discerner, chers frères. Donc après il dit, il faut veiller sur nos actes parce qu'ils deviennent nos habitudes. Si ça devient une habitude, c'est déjà très mal, parce que ceux qui pratiquent le péché, après avoir reçu l'Esprit des dieux, éventuellement, ils vont perdre l'Esprit. L'Esprit va sortir d'eux. Donc, ce qui caractérise le vrai chrétien, c'est qu'il ne pratique pas le péché. Le péché ne devient pas une habitude chez nous. Il faut la couper avant, à la racine, dans la pensée, dans les paroles, dans nos actes, pour que ne devienne pas une habitude qui va mettre en danger notre salut. Et nous pourrions être morts deux fois, même si nous vivons. Donc, ça devient nos habitudes. Par exemple, je vous dis un exemple. Dans l'épître de l'apôtre Paul à Timothée, il nous dit quand les actes deviennent une habitude, qu'est-ce qu'il se passe? Nous allons voir au chapitre 5 de l'épître, premier épître à Timothée, comment l'apôtre Paul nous explique au chapitre 5 et verset 5. Nous pouvons commencer à lire. Chapitre 5, verset 5 de l'épître de l'apôtre Paul à Timothée, premier épître. Chapitre, je suis un peu perdu là. Premier épître à Timothée, chapitre 5, verset 5. Celle, en parlant des femmes et des veuves, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Voilà quand la pratique du péché devient une habitude, on perd l'Esprit des dieux. On est mort deux fois. Parce que l'Esprit des dieux sort de nous, et c'est les seuls, quand il reste chez un vainqueur jusqu'à la fin, cet esprit, c'est par cet esprit que Dieu va nous ressusciter. Mais si on le perd avant, parce qu'on vit dans le péché, on pratique le péché, on vit dans les plaisirs qui sont interdits par la loi des dieux, on est mort, même si on est vivant. Ça veut dire on est condamné à l'étang de feu, parce que l'esprit est parti. L'esprit de la vie éternelle, la sémence de la vie éternelle n'est plus en nous. Donc nous ne pourrons plus hériter la vie éternelle. Celle qui vit dans le plaisir, il parle d'une veuve dans l'église des dieux, est morte, quoique vivante. Voilà, elle perd l'esprit des dieux, parce qu'on va pratiquer le péché, il y a un moment où le péché sort de nous. Voilà, chers soeurs et frères, donc nous continuons, nous avons dit qu'il faut veiller sur nos pensées. Il faut faire mourir celles qui sont contraires à la loi des dieux, qui est écrite en notre esprit et dans notre cœur. Il faut veiller sur nos pensées parce qu'elles deviennent nos paroles. Donc il faut garder franchement la porte de notre bouche. Et vous savez combien de proverbes il y en a? Il y a au moins 70 proverbes qui parlent des paroles, de l'importance de la parole. Il parle des lèvres, il parle de la langue, il parle de la bouche, il parle des paroles. Donc les paroles sont celles qui vont définir notre destinée. Et puis il dit qu'il faut garder nos paroles, parce que nos paroles deviennent nos actes. Et nous avons déjà vu ça, il faut veiller sur nos actes, parce qu'ils deviennent nos habitudes. Nous venons de voir ici, si les actes de vivre dans le plaisir deviennent l'habitude, chez une femme par exemple, ou chez un homme, n'importe qui, en vivant, il est deux fois mort. Il perd l'esprit des dieux. En pratiquant de nouveau le péché, on revient au vomissement, comme le chien, ou comme une truie qui a été lavée, qui retourne à la boue et reste là. Voilà. Donc il faut garder nos habitudes parce qu'il faut veiller sur elles, nous repentir avant qu'il ne soit trop tard et faire mourir en prenant notre croix, en renonçant à nous-mêmes, en renonçant, comme le Christ dit, parce que c'est une lutte intérieure. Et on sent qu'on meurt souvent devant la tentation, parce que nous, on veut obéir Dieu, mais il nous donnera la force. Donc, il faut garder nos habitudes parce qu'elles deviennent notre caractère. Ce que nous sommes. Ce que nous sommes, ça devient notre caractère, c'est nos habitudes. C'est la somme de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, de nos habitudes. Ça devient notre caractère. Et ceux qui pratiquent le péché, notre caractère, au contraire de ceux qui le font mourir jour après jour, on n'a que deux options. Ou bien, on a développé le caractère d'un vainqueur qui a persévéré jusqu'à la fin dans cette vie physique. Donc, la destinée, c'est la vie éternelle. Et puis, c'est dit qu'il faut garder notre caractère parce qu'il devient notre destinée. Et ceux qui sont revenus à la pratique du péché, le caractère, bien sûr, on sait déjà quelle est la sentence qu'on dicte, c'est que c'est l'étang de feu, où ceux qui pratiquent la fornication ou l'adultère vont finir leur existence. Donc, c'est très important de comprendre ce principe que le Christ nous donne. Je vous donne encore une autre écriture dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, s'il vous plaît, chers frères, pour savoir comment devons-nous mener cette lutte quotidienne pour être les disciples du Christ et renoncer à nous-mêmes, charger la croix et suivre le Christ. Dans le deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10, et verset 5, chapitre 2e épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5, nous renversons les raisonnements. Voilà, on veille sur nos pensées, c'est là où tout commence. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, notre orgueil. Il faut bien dire si on va réagir d'après notre orgueil ou d'après l'exemple du Christ qui nous a dit « Apprenez de moi qui suis humble et doux de cœur. » Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. C'est-à-dire, on croit à la loi des dieux. Et puis, on commence à obéir. On commence à appliquer cette loi. Donc, souvenez-vous de cette phrase merveilleuse, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Donc, chers frères, je vous prie encore de vous reporter au chapitre 5 de l'Épître aux Galates pour voir encore plus clairement qu'est-ce que le Christ a voulu dire. Il faut renoncer à soi-même, il faut prendre sa croix et il faut le suivre. Et bien sûr, le suivre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de notre vie physique, persévérer jusqu'à la fin, devenir un vainqueur par le pouvoir du Christ en nous, en étant violent dans le sens où il fait mettre à mort tout ce qui est opposé à la loi des dieux. Voyons par exemple au chapitre 5, verset 16 de l'Épître aux Galates. Chapitre 5, verset 16 de l'Épître aux Galates, il dit « Je dis donc, 5, 16 de l'Épître aux Galates. Je dis donc, marchez selon l'Esprit. C'est-à-dire, faites mourir ce qui est contraire à la loi de Dieu écrite en notre esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà, c'est l'écho de ce que nous avons lu dans Romains 7, en parlant de cette loi qui veut nous mener captives à la loi du péché. Car la chair, verset 17, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc il y a une lutte au-dedans de nous qui ne va pas arrêter jusqu'à la fin de notre vie physique et sur laquelle il faut être vainqueur en prenant la croix chaque jour, en faisant mourir tous les jours. Voilà ce qui définit un vainqueur, celui qui persévère jusqu'à la fin et celui qui persévère chaque jour, chers sœurs et frères. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. L'esprit veut suivre le Christ. Et c'est pourquoi il faut que cela soit la pensée qui prédomine en nous, qui l'emporte, que nous soyons décidés de façon violente à faire mourir ce qui s'oppose à la loi de Dieu, parce qu'elle est écrite en nous. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez votre croix. Prenons notre croix. Il faut renoncer à nous-mêmes, à cette tendance de notre chair, qui est notre moi, qui veut revivre. Il faut le faire mourir. Le vieil homme, il faut le crucifier. Donc, on continue. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, on continue. Or, les œuvres de la chair, verset 19, sont manifestes. Voilà de façon très concrète ce que nous devons, notre lutte quotidienne. Contre quoi? Contre quelle est cette tendance en nous qui veut nous mener captifs à la loi du péché? Voilà la liste, elle est bien claire. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Et nous en sommes envahis de tous côtés par l'impudicité. Parce que on expose de plus en plus le corps humain pour produire ses sentiments et ses pensées et ses paroles et ses actions et ses habitudes chez l'homme. L'impureté, la dissolution, c'est le manque de contrôle, le manque de maîtrise de soi. L'idolâtrie, l'amour de l'argent, comme l'apôtre Paul l'explique dans l'épître aux Éphésiens et dans l'épître aux Colossiens. La magie, on en est envahi. Dans les métros à Paris, vous voyez des avertissements ou des publicités pour aller voir dans l'Odéon, dans un des théâtres les plus connus de Paris, c'est le rapport entre un vampire et une jeune dame. Une histoire d'amour entre une jeune dame qui s'adonne dans les mains, dans les bras d'un vampire qui veut son sang, sa vie. Ce qui est le diable est un assassin dès le début, un meurtrier. C'est comme ça qu'il séduit les gens qui vont voir ce spectacle. Qui vont ouvrir la porte de beaucoup des gens aux influences des démons dans leur vie. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Y a-t-il des inimitiés entre nous dans le corps du Christ? Y a-t-il des inimitiés qui sont comme une tumeur dans le corps du Christ? Ne circule pas le sang de la vie spirituelle parce que nous les coupons par des inimitiés. Il n'y a pas de communication avec d'autres membres de l'Église. Si on vit comme ça, chers frères, comment va-t-on être un avec le Christ, un avec le Père, un les uns avec les autres, qui était la prière suprême du Christ avant de mourir au chapitre 17 des Jean. Donc il faut prendre au sérieux ces avertissements que Dieu nous donne. Les inimitiés ne doivent pas exister. Il faut faire mourir cette tendance dans notre orgueil de ne pas pardonner ou de ne pas demander pardon pour mettre fin aux inimitiés. C'est comme ça qu'on prend la croix. C'est comme ça qu'on fait mourir les tendances en nous. Les querelles, cette tendance à la querelle, chers sœurs et frères, Dieu est en train de nous juger jour après jour. Le jugement commence par la maison des dieux. Si on a cette tendance à la querelle, on a l'esprit de Satan qui a commencé la première querelle dans l'histoire de l'univers. Et il s'est révolté avec entière de ses anges, ou des anges qui l'ont suivi. Donc il faut vaincre ces choses-là. Il faut les combattre par le pouvoir de l'Esprit des dieux en nous. Il faut les faire mourir. Il faut fermer notre bouche quand nous avons cette tendance qui a raciné en nous. Les jalousies. Les jalousies, chers frères, c'est une œuvre de la chair qui peut détruire les mariages ou bien la jalousie de ceux qui ont été bénis, qui ne nous sont pas bénis. Nous avons le premier meurtre dont l'histoire humaine a été accompli à cause de la jalousie de Caïn quand il a tué son frère parce que Dieu a accepté son offrande, pas la sienne. Donc il avait la chair qui dominait ses pensées. Les animosités, pardon, chers frères, les disputes, voilà, il ne faut pas que ça soit la chose qui caractérise notre vie chaque jour. Des animosités, des disputes, les divisions dans les corps du Christ, chers frères, les sectes, ça veut dire aussi les divisions, l'envie, il y a une chose entre l'envie et la jalousie peuvent être des synonymes, mais aussi la jalousie non justifiée d'un mari ou d'une femme peut détruire un mariage. Et puis l'envie, bien sûr, l'envie de Satan, l'envie de ceux qui ont délivré Joseph, ses frères, l'envie des Juifs. Pilate savait que ce n'était pas envie, c'était par jalousie qu'il l'avait délivré et qu'il voulait le faire mourir. L'ivrognerie, bien sûr, ça veut dire des excès d'alcool et de vin, mais aussi, à un sens spirituel, c'est de devenir ivrogne avec des doctrines qui ne sont pas la vérité pure et claire que Dieu nous donne dans sa Bible. Les excès de table, manque de maîtrise de soi et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, voilà, ça devient une habitude et ça devient part de notre caractère, chers frères, ça devient notre destinée, notre destin. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous n'avons que deux options, ou bien le royaume de Dieu ou les temps des feux. Qu'est-ce que nous allons cultiver jour après jour? Nous allons devoir faire mourir chaque jour toutes ces tendances. Et ils sont bien expliqués, ils sont bien énumérés ici pour nous. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Dieu est en train de nous juger maintenant si nous prenons la croix, si nous renonçons à nous-mêmes, si nous suivons le Christ dans son exemple. N'hériteront pas le royaume des dieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voilà la joie. Qu'est-ce qui prédomine dans notre existence, dans notre vie, chaque jour? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Quelle est la caractéristique de notre existence? La patience, lent à la colère, la bonté, la bénignité, la fidélité, qui est traduite aussi comme la foi. Le juste vit par la foi. C'est par cette foi qu'on demande à Dieu le pouvoir de faire mourir toutes ces tendances, de les crucifier pour pouvoir être son disciple, être un vainqueur et entrer dans le royaume des dieux. La douceur, l'humilité, de savoir reconnaître nos fautes, la tempérance, la maîtrise de soi, chers frères, pour nous nier, pour renoncer à nous-mêmes. C'est ça la tempérance, c'est renoncer à nos tendances, les faire mourir. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, lisez, écoutez bien ce que j'ai en train de vous dire maintenant. Verset 24, ça c'est, si vous voulez, le point crucial de tout le discours d'aujourd'hui. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié. Voilà le mot avec lequel on a commencé. Le voilà. Clarifié, expliqué pour nous. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui sont ses disciples, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà ceux qui appartiennent, qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Jour après jour, en renonçant à nous-mêmes, en prenant la croix et en faisant mourir toutes ces tendances dans la croix, en crucifiant. Donc, en lisant tout ça, nous pouvons conclure avec ce verset qui était le favori de M. Mérite, que l'apôtre Paul nous mentionne dans le chapitre 2, verset 20 de l'Épître aux Galates. Chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Donc, c'est très différent de ce qu'il disait au chapitre 7 des Romains, où il disait que c'était loi, je la suivais, je ne pouvais rien faire contre elle. Voici la conclusion pour eux, pour lui et pour nous. J'ai été crucifié avec Christ. Nous avons déjà vu qu'est-ce qu'il faut crucifier. Tout ce qui s'oppose à la loi de Dieu, tout ce qui s'oppose aux fruits de l'Esprit. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc c'était jour après jour qu'il avait cette discipline. Il était un vrai disciple du Christ, en crucifiant ces tendances qui s'opposaient à son chemin de vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Chers sœurs et frères, que l'Éternel nous aide à ce que ce soit le Christ qui se manifeste en nous, parce que nous avons appris la discipline de renoncer à nous-mêmes, de faire mourir nos tendances charnelles, et que ce soit le Christ qui se manifeste à travers nous, comme des rivières d'eau vive qui jaillissent de nos cœurs et qui sont une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous et non pas une cause d'angoisse ou de tristesse, parce que nous avons appris à être les vrais disciples de Christ, nous avons appris à renoncer à nous-mêmes, à prendre la croix et à suivre le Christ chaque jour, chaque jour. Que l'Éternel soit avec vous, chers sœurs et frères. J'espère vous voir personnellement d'ici peu.